CO2 Mon Amour, avec le WWF. Ensemble, agissons pour laisser une planète vivante. Rendez-vous sur www.fr.
Le sapin, comme tous les arbres, capte le carbone. D'après une étude canadienne, il est 3 fois plus écologique que son homologue synthétique fabriqué en Chine. Mieux vaut choisir un sapin naturel, qui plus est, de France.
CO2, mon amour.
Il faut demander à son vendeur de sapin de Noël d'où vient le sapin qui vous est proposé. Il est évident que le sapin produit en France est moins consommateur d'énergie, moins consommateur de transport qu'un sapin qui aurait traversé toute l'Europe.
Denis Chessou sur France Inter.
Ben voilà, et puis il n'y avait plus qu'à rajouter donc les guirlandes et les boules. Mais oui, vous en avez dans les Vosges, vous en avez dans le Morvan, évidemment, du sapin de Noël. Bonjour à toutes et à tous. Ça va pas être le cœur de l'émission. Hein. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, qui tente très très calmement de rapprocher les hommes en nous rapprochant de la nature. Il y a Fabrice Desmaz aujourd'hui à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Henri-Marc Mutel qui réalise l'émission. Le climat est-il jaune, vert, ultraviolet? Le climat voit-il rouge? Capitalisme dérégulé, climat dans le pâté. On brade les bijoux de famille, le capital, les intérêts. Alors la fin de l'année avait changé avant les lumières de Noël. Les pneus, les palettes, les cieux, les esprits s'enflammaient à tire-d'aile. Tout était lié et s'accélérait. Fin de mois ou fin du monde? Y aura-t-il plus de fins de mois plus tard? Est-ce qu'il y aura encore des fins de mois plus tard si on détricote le monde? Mais début peut-être d'un nouveau mois. Oui, vous savez, ce mois invisible en fluo canari qui va être regardé, considéré, début d'un nouveau monde à les savoirs. Et justement, les savoirs, les intelligences sont partout, mais morcelés comme nous, façon puzzle dans la grande lessiveuse mondialisée, petit bonhomme pas encore recollé. C'était une période de grande confusion. Car dans le même sens, on serrait la vis. La Terre, vu l'univers, était un immense rond-point bleu et vert, de moins en moins fait pour les baleines, les éléphants, les renards, les jonquilles, les abeilles. Le vivant, un rond-point fumant qui dit pouvoir d'achat peut-être, mais surtout le pouvoir de vivre. Sans que dans le même sens, quelques-uns pour nous décident et agissent. Alors les gens intelligents, pleins d'études dans la tête, technos qui ne sont pas abonnés aux doutes, étaient eux-mêmes un peu largués. Mais pas les amarres, toujours dans le même quai, attachés sur le même quai au même logiciel. Bon sang, mais consommer, puisque consommer, c'est la garantie d'être heureux. Le slogan était un poil usé. On commençait à voir au travers, car il avait gentiment lacéré la vie, les paysages et les âmes autour de lui. Les politiques étaient au plus pressé, et ils géraient au plus pressé. On colmatait les brèches, on terrassait le monde, qui ramait de plus en plus en cale sèche, raclant dans les océans autant de plastique que de poissons électriques. Tout allait bien de la cave au plafond, de l'atmosphère jusqu'au sous-sol. Oui, mais c'est où l'avenir? Quel cap on prend? Quelle direction, papa? Ah, désolé les enfants, là en ce moment j'ai un petit peu perdu la boussole. On était pris entre le fossile et le marteau, et nous restions sourds comme des enclumes. On essaya bien de taxer le carbone, hein, une vraie avancée, mais sans faire payer les usines qui polluent haut, qui polluent gros, sans faire payer les avions, sans faire payer les bateaux. Alors le tour de magie, il n'a pas pris parce que l'équité, elle avait le cœur gros. Le climat a-t-il un gilet jaune, un gilet vert, ultraviolet? En tout cas, le climat voit rouge. Papa, maman, racontez-moi une histoire de vie, une vraie pour demain, une qui a du sens, une qui me fasse envie. Et je vous l'ai dit, donc, pour cette journée, donc, avec cette manifestation, évidemment, en faveur du climat, cette marche pour le climat, avec grand plaisir, on rejoint Cyril Dion. Bonjour Cyril.
Bonjour Denis.
Alors Cyril, donc, vous êtes là du côté de la République, parce que donc ce cortège va partir de la Nation, pardon, pour aller donc jusqu'à la République. Et évidemment, vous avez souhaité donc conserver, avec 200 bénévoles d'Alternatiba, hein, qu'il faut vraiment saluer pour, on va dire, le service d'ordre, pour que cela ne dégénère pas, souhaiter donc conserver évidemment cette manifestation. Parce que pour vous, évidemment, cette cause, on va dire que les inégalités et la destruction des écosystèmes, ça va dans le même sens.
Ben oui, ça va exactement dans le même sens. Je sais pas si vous m'entendez parce que
les amis
d'Alternativa font beaucoup de bruit autour de moi. On a beaucoup de personnes qui sont là, qui marchent pacifiquement. On a beaucoup de gens qui sont avec des gilets jaunes. Donc c'est un super rassemblement jusqu'ici. Et on voulait le faire pour montrer exactement ça. Qu'en fait, la cause des inégalités, la cause de la destruction de la planète, c'est ce système économique qui cherche du profit à court terme le plus vite possible et qui se soucie ni des êtres humains, ni de la nature. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous de combler cette fracture qui pourrait être faite de façon un peu artificielle entre fin du monde et fin du mois. Ça n'existe pas. On est ensemble pour transformer la société, pour transformer le système économique.
Ce qui veut dire qu'il faut organiser autrement, structurellement, cette société. On le dit déjà depuis pas mal de temps. Est-ce que les gens défilent véritablement pour l'écologie en France? On voit bien que c'est quand même pas gagné. Mais en même temps, de plus en plus, les gens se posent des questions. C'est-à-dire qu'on ne sent pas forcément une opposition du tout systématique entre ces problèmes sociaux et ces problèmes environnementaux, contrairement à ce que l'on pourrait nous faire penser.
Évidemment, là aujourd'hui on a besoin d'un changement systémique, on a besoin de préparer cette transition, on a besoin de taxer les plus gros pollueurs pour financer la transition pour les plus fragiles et de pas leur faire peser ça sur le dos. On a aussi besoin de changer la façon dont on crée la monnaie, on a besoin de changer notre modèle démocratique pour avoir des vrais espaces de concertation où on puisse ensemble trouver les meilleures solutions plutôt que de s'opposer les uns aux autres.
Mais alors, en tout cas, ceux qui s'en sortent, on va dire très très bien, ce sont, on va dire, les pétroliers d'un côté, les fabricants d'automobiles de l'autre. On va dire que les gros pollueurs ne sont pas taxés au même niveau, notamment, on peut rajouter le transport aérien, le transport maritime, quoi. Et ça a été bien remonté, ça les gens ont compris.
C'est bien remonté et c'est pour ça qu'on a maintenu cette marche, c'était pour pouvoir passer ce message toute la semaine. Si on avait annulé la marche comme un certain nombre de personnes le demandaient, on n'aurait pas pu porter cette parole et on n'aurait pas pu montrer que tous ceux qui sont aujourd'hui mobilisés pour le climat pensent aussi à tous ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois et qu'on a besoin de se mobiliser dans un seul et même sens.
Alors il y a une chose, Cyril Dion, évidemment, qui ne ressort pas forcément complètement dans ce que l'on entend. Alors certes, ce n'est pas la taxe diesel de quelques centimes qui pourra résoudre tous ces problèmes, mais il faudrait laisser dans le sol la quasi-totalité du pétrole et du charbon aujourd'hui.
Absolument. Là, c'est pour ça qu'il y a un côté ridicule à dire que c'était la transition énergétique de taxer de quelques centimes le diesel. En fait, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus ambitieux. On a besoin de faire en sorte que l'ensemble des énergies fossiles, le pétrole, mais aussi le charbon, puissent rester sous le sol et qu'on invente une autre façon d'organiser la société. Ça veut dire évidemment d'autres moyens de transport, mais ça veut dire aussi d'autres urbanismes. Faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de faire des kilomètres pour aller à leur travail, n'aient pas besoin de prendre leur voiture pour aller dans les centres commerciaux et sur les parkings. Et ça ne peut pas se faire juste par des petites mesures. C'est un changement vraiment structurel.
Quand je disais, Cyril Dion, en terminant mon papier, donc « Papa, maman, racontez-moi une histoire de vie, une vraie histoire pour demain, une qui a du sens. » On n'a pas de récit collectif aujourd'hui.
On en manque, oui. C'est pour ça qu'on a fait demain, d'ailleurs, qui va passer sur France 2 dimanche prochain.
Alors, ça passe à 22h50. Voilà. Moi, j'aurais juste revenir là-dessus. Moi, je suis quand même un peu interloqué parce que, bon, demain va passer dimanche à 22h50. Et après demain, donc, que vous avez réalisé avec Laure Noilat, va passer sur France 2 mardi, mais à 23h15.
Ouais. Nous-mêmes, on est un peu interloqués et un peu défaits. Donc, j'en ai parlé à Delphine Ernaud qui m'a dit qu'elle pense que c'est une erreur effectivement et qui projette une autre diffusion en prime time cette fois au printemps, mais on comprend pas qu'en pleine COP24, on comprend pas qu'en plein moment de désarroi là dans la société où on cherche des solutions, le service public n'ait pas décidé de mettre ça en avant pour proposer quelque chose de constructif.
Alors on sait qu'il y aura du replay, donc évidemment qui est tout à fait possible. Aujourd'hui, quand même, avec tous les signes que nous voyons, ça fait peut-être pas encore sens, mais vous les avez mis en avant avec demain, vous ferez la suite aussi avec après-demain. Les gens, en fait, nous tous, on est ouverts lorsque l'on voit des mains tendues, lorsque l'on voit des initiatives un peu partout. Est-ce que tout ceci commence à faire sens, ou bien une fois de plus, c'est-à-dire que nos gestes individuels d'un côté, les actions qui sont réelles des collectivités aujourd'hui, est-ce suffisant si structurellement on n'a pas quelque chose de plus fort?
Mais non, on a besoin aujourd'hui de lois. C'est sûr que comme le secrétaire général de l'ONU nous a dit qu'on avait 2 ans là, les scientifiques nous disent aussi que le temps se raccourcit, on ne peut pas attendre par exemple que tout le monde décide de se passer du plastique dans sa vie tous les jours. On a besoin de lois qui interdisent le plastique à usage unique. On ne peut pas attendre que tout le monde décide de prendre son vélo au lieu de sa voiture alors qu'il y a des gens qui structurellement ne peuvent pas le faire. Donc là aussi, on a besoin de mesures structurelles. On a besoin de lignes de train qui permettent de desservir un certain nombre d'endroits dans des milieux ruraux ou périurbains On a besoin de faire isoler des logements et c'est pas les personnes qui sont dans la précarité énergétique qui vont pouvoir isoler elles-mêmes leur logement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin d'engager une lutte politique, et qu'on est à un moment où cette convergence possible entre les demandes de justice sociale qui sont portées par les Gilets jaunes et les demandes de transformation sociétale qui sont portées par les militants du climat pourrait se rejoindre.
Merci à vous Cyril Dion, donc en direct de la marche du climat, donc entre Nation et la République, demain dimanche 22h50 et 23h15, ami Assomniac, donc mardi, ce sera donc sur France 2, ce sera pour après-demain. Allez, bonne marche et à très bientôt Cyril Dion.
Merci Denis.
Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux. Je ne sais plus où donner du regard. Au dehors, il y a cet enfant et ce vieux chien qui dort. Il y a ce chantier et ces grues. Au milieu, il y a tant de choses qui repoussent la mort, d'images qui saisissent et rendent presque heureux. Souvent, je n'ai besoin que d'un vieux chien qui dort, d'une image à sauver. Viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Je ne savais pas quoi faire, on m'a si peu appris. Un jour j'ai regardé dehors et j'ai compris. Un jour j'ai regardé et pensé ça suffit. Mes yeux me suffiront pour sentir que la vie circule. Et même si je ne suis pas dedans, si je suis en dehors ou juste au bord du plan, il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. À gagner parfois quand le temps vous oublie.
Estampillé France Inter, c'était Dominique. Ah, le temps qui passe sans moi, CO2, mon amour.
Rien n'arrête une idée qui arrive à son heure. Victor Hugo.
CO2, mon amour, Denis Chessou, sur France Inter.
Le cher Victor Hugo qui disait aussi « La foule n'est pas le peuple ». Alors, Frédéric Danhé avec nous. Bonjour cher Frédéric.
Bonjour Denis.
Je ne sais pas combien d'années, depuis combien d'années vous êtes là.
Ça fait trop longtemps. Ça fait plus.
Bon, ingénieur en environnement, dernier ouvrage qui est ressorti donc en poche chez Flammarion qui s'appelle « Cessons de ruiner notre sol ». Car là aussi, résilience, on essaie, ça va être ça. Notre société va être une société de réparation. On est parti là-dedans. Alors, on a mouliné tellement de choses sur les Gilets jaunes. On va avoir la prétention d'apporter forcément des choses de tout à fait forcément révolutionnaire, mais d'un côté, entre du YACA, de la collapsologie, des réunions internationales, voilà, tout ça qui bouge. Des gens qui se rendent bien compte qu'effectivement, il faut passer à autre chose. Mm-hmm. Mais ça bloque parce que derrière, il y a quand même des intérêts quand même très très forts. Qu'est-ce que l'on peut dire de tout cela ?
On peut dire déjà que les Gilets jaunes, contrairement à ce que disent certains, sont tout sauf des anti-écolos incultes et qui comprennent rien et qui ne voient que leur portefeuille. Non, ils sont comme vous et moi, Denis. Ils sont juste beaucoup plus touchés que nous, sans doute, par les fins de mois. Et du coup, quand on leur assène une taxe de plus, même si... En fait... Quand on leur assène le symbole d'une écologie, là pour le coup punitive, que eux seuls, c'est ce qu'ils s'imaginent, c'est ce que les gens s'imaginent, que eux seuls vont devoir payer, ben ça marche pas. En fait, derrière tout ça, il y a un besoin de changement fondamental. Cyril l'a dit, d'un besoin structurel, mais il faut qu'il soit rendu acceptable, c'est-à-dire désirable. Il faut qu'il donne envie. Et pour l'instant, l'écologie n'est qu'un prétexte pour la politique pour faire autre chose. En tout cas, l'écologie ne donne pas envie. Et c'est moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'échec d'un discours écologique qu'on porte, vous et moi, Denis. C'est l'échec d'un discours qui n'a pas su parler aux gens, qui n'a pas su parler, oui, au peuple, qui n'a pas su parler à l'âme et à l'esprit des gens. C'est un discours très intellectualisant, c'est un discours assez catastrophiste, c'est un discours infantilisant. C'est un discours qui a l'air d'être un discours, oui, venu d'en haut et qui est déconnecté de la réalité. Alors que la réalité des changements, les gens le voient, moi, comme vous, Denis... On passe du temps ailleurs qu'à Paris et les gens le voient, le changement climatique. Les gens le voient qu'il y a des problèmes avec l'eau. Les gens le voient qu'il y a des problèmes avec le tri des déchets. Mais il y a une déconnexion avec le discours qui vient d'en haut, avec ce discours intellectuel, et ils ne voient pas le lien.
Et alors Frédéric, il y a une chose sur laquelle les gens sont très sensibles, on va dire, c'est le paysage.
Et oui.
Non, c'est parce que c'est une autre manière peut-être de rentrer avec ces sujets environnementaux et écologique.
Mais c'est par là que les entreprises et les collectivités, de plus en plus, les gens rentrent. En fait, l'écologie, c'est quoi ? C'est une science sociale. C'est un socialisme, pour faire court, au sens où c'est la science qui étudie les rapports entre les gens, les rapports entre les êtres vivants et les rapports entre tout ça et leur milieu. Et finalement, quand vous interrogez les gens, ce que disent les Gilets jaunes, c'est la volonté de rester dans leur territoire et d'avoir un territoire qui puisse être héritable. Ils ont hérité d'un territoire, ils veulent le... Ça revient souvent, ça, et notamment chez eux, dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise. Et ce territoire qu'on veut faire hériter, il faut qu'il soit beau. Et quand on parle de territoire, quand on parle d'un territoire dont on veut maintenir la beauté, finalement, on parle d'écologie. On parle de, on parle de paysage, on parle de bocage, on parle de prairies, on parle de transport doux.
On parle d'éoliennes dont on ne veut pas.
On parle d'éoliennes dont on ne veut pas. Mais tout est contradictoire. En fait, les gens, on est tous figés, on a tous nos racines dans un territoire. Et là où on fait de l'écologie, c'est quand on revendique que ce territoire, quand on remet en cause la laideur qui entache aujourd'hui les territoires, notamment avec, par exemple, avec les hypermarchés, avec les rocades, avec les autoroutes.
C'est une horreur totale, ça.
Oui.
Pourquoi les entrées de ville sont-elles aussi moches? Ça fait, je sais pas, 20 ans qu'on doit faire à peu près cette émission-là. tout à fait régulièrement. Alors, je vais vous emmener dans un coin. Alors, tout à l'heure, donc, ça va être, parce que là, l'émission est un peu quand même, on dirait, un peu bousculé, c'est normal, il y a l'actualité. Donc je vais vous emmener, je vous l'ai dit, dans ce qu'on appelle des sagnes. Alors les sagnes, ça je fais un peu de teasing, si vous voulez. Ce sont des zones humides, ce sont des tourbières.
Là ça, où c'est... on s'enfonce, ça fait sprouch.
Ça fait floc.
Ça fait pas sprouch.
Ça fait sprouch aussi, ça dépend de vos bottes. Oui, ça dépend, voilà. Et alors ça va être après, parce que là ça va nous faire du bien, vous allez voir qu'il y a aussi une résonance politique sur un petit territoire. Mais auparavant, on va rejoindre un garçon qui s'appelle Nicolas Braic et qui est paysan agronome. Il est au sud du Larzac. Il est sur ces terrasses très belles du Larzac. On est dans le département de l'Hérault. Vous avez le cirque de Navacelles juste à côté. Mais cet homme-là fait de la richesse avec de la broussaille et du buis. C'est un faiseur de sol. Bonjour Nicolas Braic.
Bonjour Denis. Alors le décor est juste majestueux. On est sur des très grands espaces à perte de vue. On est sur un vieux système qui s'appelle l'agro-silvopastoralisme. Donc vraiment le respect de l'écosystème en ouvrant les espaces et en les préservant avec bien sûr des animaux, hein, des moutons. Moi j'ai la chance aussi d'avoir des cochons. Et des perspectives de gestion durable avec un écosystème préservé et très peu d'humains. On est peu de personnes sur ce biotope.
Et ce qui ne manque pas, c'est la broussaille. Et cette broussaille, bah évidemment, vous l'avez regardée peut-être différemment. On se dit de la broussaille, qu'est-ce que c'est ? En broussaillement, on n'a pas forcément une image très très positive. Et pourtant, toute la vie est là. Quelle a été votre idée, Nicolas ?
Alors moi, c'est très simple. En fait, j'ai eu la chance d'observer les animaux et d'observer un petit peu cette nature. Et je me suis dit, c'est une ressource qui n'est pas accessible instantanément, mais qui produit énormément de matière. Et cette broussaille, elle ne permet pas d'accéder à certaines zones. Et en cherchant, en m'intéressant un petit peu au parcours de tout ce pays, je me suis aperçu que c'était une ressource principale au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des coupeurs de buis qui coupaient cette broussaille, on va va dire, qui est la plus grande partie, essentiellement ce végétal de buxus, et puis beaucoup d'autres épineux, ronces, tout ce qu'on appelle broussailles, en sous-bois. Et cette matière, en fait, était utilisée en paillage, en amendement, hein, en création de sol, pour améliorer l'ensemble des sols, y compris les vignobles des contreforts du Larzac, hein, des belles appellations qu'on entend parler en ce moment, notamment les terrasses du Larzac. Donc, sur une amélioration des mécanismes naturels des sols qui vont eux-mêmes générer des flux, donc alimentation et goût, aussi dans tout ce qui pousse.
Et alors, Nicolas Braic, une fois qu'on a cette broussaille, bon, qu'est-ce que vous en faites? Vous l'avez compactée et ensuite, ça va permettre d'amender nos sols?
Voilà, tout à fait. En fait, la coupe aura du sol, hein, je la coupe en petits morceaux et puis ça chauffe, donc on peut déjà servir de cette énergie, mais surtout, on va pouvoir créer du sol avec. En fait, c'est un humus forestier. Donc on n'est plus du tout dans les composts, dans le fumier, dans les terreaux. On est sur de l'humus forestier, quelque chose qui est à la base de la vie de cette planète. Hein. Les 7 cm de la couche arable de cette planète qui vont permettre de générer, on va dire, le maximal du potentiel génétique des plantes. Donc plus un sol est vivant et plus le reste fonctionne. On ne s'occupe plus de la plante, on s'occupe uniquement du sol.
Ce qui veut dire que concrètement, je peux utiliser, mettons, ce sac de 9 kilos que vous proposez donc au public. Et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire chez moi? Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus, peut-être qu'un terreau que l'on connaît?
Alors en fait, on va bloquer les mécanismes, on va dire, d'utilisation frigo. Hein, là, actuellement, les plantes, on apporte quelque chose par rapport à ce qu'on enlève. Là, on va repartir sur un réseau. Donc on va mettre son buxor sur sa plante et on va commencer à constituer ce réseau comme un sol forestier. Hein, on a appris récemment que les plantes communiquaient entre elles. Eh bien, c'est la même idée. Donc dans sa jardinière, dans son pot, sur son balcon, on va pouvoir mettre ce buxor en surface et le réseau va se reconstituer. Ce qui va faire que la plante ne va plus être dans une dépendance, elle va être dans une communication. On va avoir un système foliaire qui va exploser, une vitalité et puis une ambiance. Hein. On va sentir que la plante récupère un petit peu son biotope naturel.
Lorsque l'on parle de buxor, donc ça c'est le nom que vous avez trouvé, c'est bien parce qu'il y a un mélange de buis ou bien le buis est principal dans ces fameux sacs de broussailles?
On a plus de 80% de buis, donc de buis fragmentés, mais on a aussi d'autres essences, des petits épineux ou éventuellement des branches basses d'arbres, mais c'est vraiment en petite proportion. Et on a appelé ça buxor, c'est buxus aurum, l'or du buis, parce qu'en fait l'humus c'est notre plus grande richesse.
Et alors vous avez cette chance de ne pas avoir du buis qui a été décapité donc par ce merveilleux insecte?
Eh bien écoutez, jusqu'à présent on est exempt des attaques, alors on ne sait pas combien de temps ça durera. Le Larzac est un biotope vraiment particulier,
ouais, au niveau
des extrêmes climatiques, mais ce qui est intéressant c'est que le fait de le couper, on le préserve. Les jeunes pousses ont l'air d'être moins sensibles aux attaques de ces papillons. Donc on a vraiment un buis qui est plus vivace et qui va pouvoir supporter ces attaques. Ne pas le couper, c'est peut-être plus dangereux que de l'utiliser comme ressource.
Bon, alors donc au pied du sapin, éventuellement, hein, donc ce fameux sac. Comment on fait effectivement pour trouver en fait cet or végétal, quoi?
En fait, c'est tout simple. Vous allez sur buxor.fr, hein, buxor.fr. Et là, tout de suite, vous allez arriver sur soit la campagne KissKissBankBank, soit vous pouvez naviguer et voir l'ensemble de ce qu'on fait, et puis vous cultivez, voir si ça vous parle, si ça résonne en vous.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que en fait, on parle très souvent d'agroécologie, de cette fameuse transition que l'on souhaite beaucoup. Alors, ça a été un peu entre les mains, on va dire, de personnes qui connaissent la permaculture, qui connaissent des tas de choses sur le sol, mais peut-être que le grand public ne l'a pas totalement appréhendé. C'est peut-être une manière, on va dire, une modeste manière de l'appréhender?
Tout à fait. C'est ce que je ressens après les conférences et l'ensemble des interventions que j'ai pu effectuer. Hein. Mais on n'arrive pas à vraiment comprendre quelle est notre action concrète, nous, en tant que simples citoyens ou humains. Là, on essaye de proposer une première solution de création de sol vivant chez soi. Et ça, c'est une première étape, je pense, vers cette transition agroécologique qui est tant attendue.
Un grand merci à vous, Nicolas Braic, et puis à très très bientôt. Au revoir.
Merci encore, Denis, à bientôt.
Et donc, vous avez toutes les informations sur le site de CO2, Mon Amour.
Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de
j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains, à force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Et aux pieds. Merci, s'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, 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 j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Oui, c'est un truc de marcheur, ça. J'ai mal les pieds, j'ai mal aux mains. C'était donc Sensé Vérino sur France Inter.
La balade de Denis Chessoux.
Oh, bah là, Céline, on se doute bien qu'il y a eu du bovin là qui est passé. Il y a eu de la vache. Hein.
Les bouses sont toutes fraîches.
What, c'est vrai que ça dérape. Hein. On va pas vous faire un sujet sur les bousiers, en tout cas pas aujourd'hui, sur les décomposeurs, parce qu'ici il y en a. Donc, quand la nature fait son boulot, tout va très bien. Mais on va arriver donc. Sur une sagne. Wow ! Et alors là, merveille, parce qu'on la surplombe un petit peu, Céline. Alors racontez-nous, quand on parle de sagne, on parle de zones humides, on parle de tourbières. Et je veux dire, elle est toute belle. Hein.
Alors ça, c'est la sagne de la Souque. La Souque est donc située sur la commune d'Anglesse, au sud des monts de la Cône, ouais. Dans une zone qui est vraiment une zone charnière entre les influences méditerranéennes et les influences atlantiques. Et donc toute cette région du Haut-Languedoc est marquée par ces influences multiples.
Et oui, c'est là que ça castagne dans le ciel, hein, dans ce très beau département du Tarn, on est donc dans le sud de la France. Le massif central étire ses derniers contreforts émoussés vers le soleil. Il va épuiser ses derniers morceaux de granit parce que la région du Cidobre est juste à côté. Et c'est donc un coin où les nuages viennent s'accrocher, s'entremêler. Vous avez le vent marin qui après se soulage de ces nuages et qui va devenir l'eau tant sec et sans pitié. Et c'est un coin d'ailleurs, comme il y a beaucoup de mélanges, on rejette pas l'autre. Et ici, on l'inclut. D'ailleurs, c'est une terre qui abrite, vous savez, ces étranges papillons de nuit qu'on appelle les parpaïoles. Ça vous dit? Eh ouais, les parpaillots, bien sûr. Pays de marge et pays de refuge. Et avec Céline Rive, donc, nous marchons sur ce sol souple, instable, qui bouge, c'est celui des sagnes. La sagna, en occitan, c'est le lieu mouillé. C'est le lieu mouillé. Et donc, il y a eu une coopérative qui s'est créée, qui s'appelle Rhizobiome, avec Céline, avec Jacques aussi. Et c'est une coopérative d'intérêt collectif qui œuvre pour la préservation donc, des espaces naturels du Tarn, et en particulier ces zones humides qu'on appelle des sagnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle réunit des propriétaires de zones et des scientifiques qui agissent ensemble pour préserver les biens communs que sont l'eau et la biodiversité. Donc cette coopérative a véritablement développé un savoir-faire alors très singulier hein, de médiation, c'est très important ça, qui accompagne les acteurs vers une plus grande citoyenneté en intégrant donc ces enjeux écologiques. Et puis donc il y a un livre qui vient de sortir, vous pouvez vous le procurer, vous allez avoir tous les éléments sur le site, hein, qui s'appelle La langue des sagnes. Alors là, il est très beau parce que c'est donc Céline qui a raconté tous ces témoignages, toute cette belle histoire humaine. Un autre livre s'appelle L'eau de ma terre, c'est un ouvrage de photographie où on rencontre les acteurs de ces sagnes avec des photographies de Émilie Fernandez. Et donc, vous connaissiez Manon des Sources. Maintenant, vous allez découvrir Céline des Sagnes avec Rhizobiome. Et là, nous marchons entre chênes verts ou hêtres, entre sec et humide.
C'est-à-dire à quelques kilomètres à vol d'oiseau, là, quand on descend vers Saint-Pons, oui, on va très vite trouver le chêne vert. Alors qu'ici, on est sur la zone du hêtre. En quelques kilomètres, le paysage change complètement.
Alors parce qu'on a quand même un vent qui s'appelle le marin, qui vient de la Méditerranée au départ.
Alors le vent marin arrive du sud de la Méditerranée. Il arrive ici, il est chargé d'eau, il est très très humide. Et puis il va se bloquer contre la montagne noire, les monts de la Cône.
Ouais.
Et il va ici se décharger pour pouvoir passer, franchir le col. Et après, il va continuer sa route vers l'ouest. Là, il va être beaucoup plus sec et il va y avoir ce qu'on appelle un effet de fun.
Et là, c'est le vent d'automne qui prend
se transformer en vent d'automne. Ouais. Et par contre, le vent d'automne là, est un vent très violent et très sec qui balaye la partie occidentale du département du Tarn et qui se dirige plutôt, lui, vers l'ouest.
Alors racontez-nous donc cette Sagne qui vous est extrêmement chère et qui réunit les hommes, et on le voit effectivement à travers votre ouvrage, donc la langue des Sagnes. Pourquoi cette Sagne est importante pour vous ?
Parce que c'est dans un milieu comme celui-ci, une Sagne, qu'est née l'histoire il y a une trentaine d'années.
Ouais.
Il faut savoir que c'est des milieux qui sont ici atypiques. Ouais. Par rapport à la géographie locale, par rapport au climat. Et donc il y a une trentaine d'années, il y a un type un peu fou qui s'appelle Jacques Thomas, qui est ouais. arrivé dans la région et qui s'est passionné pour ces milieux de tourbières et qui a commencé à les inventorier, à courir partout dans la montagne pour les repérer, petit à petit, à s'intéresser à la manière dont les gens les regardaient et s'en occupaient.
Oui, parce qu'il y a quand même une représentation de la Sagne aussi.
Alors, Sagne, c'est le terme issu de l'occitan. Pour les gens ici, c'est l'endroit où on met les bottes. Alors, c'est pas du tout les tourbières ou ouais. les zones humides. C'est les endroits où on met les bottes. Ça peut avoir des formes différentes. C'est souvent des tourbières dans les monts de la Cône. C'est aussi des prairies humides. Mais c'est le terme populaire, je veux dire, dans cette langue d'oc qui est quand même encore bien présente ici, c'est la Sagne. Donc, la Sagne est donc un endroit où il y a de la terre et de l'eau qui sont mêlées. L'eau court dans la terre, on la voit pas, mais le milieu est suffisamment mou, difficile à pénétrer pour qu'on puisse se rendre compte que dessous c'est pas du tout portant. Et donc c'est des milieux compliqués à gérer, surtout s'ils n'ont pas été entretenus pendant longtemps.
Et donc c'est plus simple d'aller drainer, on va se dire, et puis alors, on assèche.
Il y a 30, 40 ans, 50 ans après-guerre, et où c'était l'idéal du progrès agricole et de l'intensification de ce qu'on appelait l'amélioration foncière, où on a voulu intensifier toutes les parcelles sans forcément comprendre les fonctionnements naturels des espaces et sans forcément comprendre que là, il se passait quelque chose de particulier, à savoir qu'il y a de l'eau qui coule à l'intérieur de la terre. Et donc, on a essayé à grand renfort de subventions de les drainer pour en faire des prairies plus faciles à utiliser, sachant que c'était aussi une période où il y avait moins de main-d'œuvre dans la montagne, et donc l'agriculture s'est beaucoup mécanisée, et aller dans ces espaces pleins d'eau avec des tracteurs, c'est pas possible. Et donc il y a eu toute une période comme ça d'aide au drainage, qui en fait n'a pas eu beaucoup de résultats probants, puisque en fait, même si vous essayez dans le vélo, l'eau retrouve toujours son chemin. Et on est sur des formations de tourbières, donc aller faire pousser du blé dans de la tourbe, c'est pas possible.
Non, c'est vrai.
Donc petit à petit, les éleveurs, ici il y a essentiellement des éleveurs, se sont rendus compte que c'était pas une bonne affaire. Même avec des subventions, on se retrouvait, c'était pas du tout rentable d'essayer de drainer ces espaces et de les intensifier. Enfin, ça a fait quand même beaucoup de dégâts, cette politique. À la fois agricole et à la fois forestière aussi. Il y avait le Fonds forestier national qui a incité à planter à grand renfort de gros fossés pour enlever l'eau. Les plantations se sont révélées pas du tout rentables, opérantes.
Ouais.
Donc il a fallu 30 ans de recul pour se rendre compte qu'on avait fait des erreurs.
Alors là, on a un petit peu changé de lieu, hein. On est toujours dans ces monts de la Cône, toujours donc à Anglès. Bonjour Alain Sénégas.
Bonjour Denis.
Alors Alain,
comment
on est...
ça va ?
Oh, bah, bien,
Bah, bon. Écoutez, on est au pays, dans le Tarn.
Bon, c'est pas inconnu en France.
Ah non, c'est pas. Bah non, pas complètement quand même. Pas complètement. Alors, ce qui est peut-être un peu plus inconnu, ce sont vos sagnes. Alors, je sais que vous en avez 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous en faites et à quoi elles vous servent, vous, en tant qu'éleveur ici?
Déjà, vous savez, pour venir ici, il faut en vouloir parce que.
Ah ouais, ça c'est vrai.
On est ravitaillé par les corbeaux et des fois, même, ils portent la musette sur le dos, les corbeaux.
Eh ouais.
Et le bon Dieu n'est jamais passé, les gens, ils disent. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu, hein, toujours. Hein, il a dû. Peut-être il est passé, mais il y a longtemps.
Parce que c'est quand même de la petite montagne ici, on est à quelle altitude?
800 mètres.
Pourquoi vous avez donc gardé, vous, ces sagnes?
Parce que moi, je suis un peu un paysan à l'ancienne.
Ouais.
Les modernes, ça ne leur plaît pas trop, ça, parce qu'il faut que ça produise, alors on draine pour essayer de gagner au maximum. Moi, comme je suis à l'ancienne et que je suis extensif, que j'ai beaucoup de terres pour peu de bêtes, hein, alors je les ai gardées. Et c'est pas même pas mal parce que, surtout cette année été 2018, où on a entendu parler de longues sécheresses,
ouais.
Et nous on a été touchés aussi, les seuls endroits où il y a eu de l'herbe au mois d'août, ça a été dans les sagnes. Et le seul endroit où il y a eu de l'eau, parce que moi j'ai porté l'eau maintenant aux vaches à un endroit parce que c'est un parc qui n'a pas d'eau, mais sinon, elles se sont abreuvées tout l'été dans les sagnes. Et bien sûr qu'elles n'ont pas mangé de la luzerne quatrième coupe, mais. Elles se sont remplies le ventre. Faute de gris, ils vont manger des merles.
C'est ça. Et donc, ça veut dire que donc, c'est une assurance sécheresse hein, pour vous.
Un peu. Bon, en plus, si c'était des vaches laitières, qu'il faut qu'elles fassent 40 litres de lait par jour, peut-être ça passerait pas, mais pour les miennes qui ont juste un veau dessous,
ouais.
Ça passe.
Alors, ça fait réserve d'eau, et en plus, ça permet aussi d'envoyer de l'eau, plus doucement, évidemment, que n'importe quel torrent, n'importe quelle crue, un peu partout.
Voilà.
La Sagne, elle est solidaire.
Mais bien sûr, elle nous aide. Cet été, elle a été d'un précieux confort.
Elle fait un peu partie de vous-même, quoi, cette sagne aussi?
Ben, moi, j'en ai une. Elle appartient à un gars qui n'est pas d'ici. Et la dame à qui je loue la ferme à côté l'a exploitée pendant longtemps. Puis après, quand elle a abandonné, moi, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas suivi parce que ce n'était pas chez elle. Puis après, quand je connais bien le propriétaire, puisque c'est un copain à moi, je lui ai demandé. Il m'a dit, tiens, fais ce que tu veux. Et c'est là qu'on l'a récupérée, après qu'elle a été fermée pendant 15 ans.
Et donc après, donc vous avez mis les bêtes dessus?
Voilà. Et on a d'abord, la Scopsagne était venue au départ, avait fait des passages avec un broyeur, là. Et les vaches, d'après d'elles-mêmes, elles ont ouvert.
Donc c'est grâce à elles aussi que l'on a bien sûr des paysages
ouverts
et des sagnes.
Mais il faut qu'elles soient pâturées. Hein.
Pour vous, c'est beaucoup de travail ou bien c'est vraiment les bêtes qui font le boulot?
Non, c'est les bêtes. Hein.
Et alors, bon, là, on a mis des bottes, hein, parce que sinon, ça rigole pas.
Ah, ben là, il faut être un peu. Il ne faut pas y aller avec des béquilles, hein, c'est pas la peine.
Ouais.
Parce qu'avec le touradon, les bosses et les trous, ça y va.
Ouais.
Comme j'ai dit une fois à quelqu'un, on fait 3 pas, on tombe 2 fois.
Ah oui.
Alors, on a fait une magnifique fête des sagnes. Cette année, il y avait beaucoup de monde, il y avait une très belle promenade. Il y a même que c'était un peu dernier jour de sécheresse, mais il y a même un petit gamin qui a trouvé un beau cep.
Ah oui.
Et après, là, quand je dis que le bon Dieu n'est jamais passé, il a dû passer, puisque vers 11h, la pluie s'est mise à tomber. Au milieu de notre excellent copain.
C'était le cadeau de la fête du sage.
Tout le monde est parti ravi. Même s'il y en a quelques-uns qui se sont un peu mouillés, mais c'était très bien.
Vive les sacs. Un grand merci Alain.
Il n'y a pas de problème.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Et nous, on va poursuivre le voyage, on va changer de sagne, on va aller vers une sagne toujours dans le département du Tarn, mais ce sera avec Céline Rive, du côté de la Montagne Noire.
You feel my anger radiate, my brutality disseminate. Still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. I am in danger to be the danger, the quiet anger, the troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger radiate. My brutality disseminate. Still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. If you rise with the sun, we will rise together.
the danger, the quiet anger that troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire.
John Hadid sur France Inter, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur, Radiate, irradié, c'est bien pour une émission sur l'écologie. Alors on poursuit donc notre voyage dans le département donc du Tarn, toujours avec Céline Rive, voilà, cette coopérative Rhizobio. Et là je vous le disais, on est dans la Montagne Noire, donc autre hauteur, on est en forêt, et on voit quoi? On voit ces petites buttes.
Voilà, c'est de la molinie qui pousse de manière très très serrée et qui crée des buttes que l'on appelle des petites tours, donc des tours à dons, et sur lesquelles il est très difficile de marcher.
Ouais.
Et en fait, ça se développe dans les sagnes qui ont été abandonnées depuis très longtemps, qui n'ont plus été pâturées depuis longtemps.
Alors Céline, là on a changé de lieu, on a fait une quarantaine de kilomètres, on est dans cette superbe montagne noire, donc qui est à la fois sur l'Aude et sur le Tarn. Alors, elle était chère évidemment à un homme qui s'appelait Monsieur Riquet, parce qu'on connaît le canal du Midi, et c'est là qu'il a fait des prises d'eau assez incroyables pour alimenter donc son canal. Et cette sagne, là où vous m'amenez, on faisait peut-être partie aussi.
Ah ben ça fait partie du château d'eau qui alimente le canal du Midi. Riquet a eu cette intelligence de comprendre qu'il ne pourrait pas alimenter son canal du versant atlantique au versant méditerranéen sans capter l'eau de la Montagne Noire. Les zones humides sont
les amis du canal du Midi.
Voilà,
aussi.
Puisqu'elles sont aux sources du bassin.
Elle est un peu différente par rapport à l'autre sagne, celle-là.
Alors celle-là, elle a été abandonnée longtemps, elle est plutôt en milieu forestier.
C'est ça.
Donc là, il y a eu une expérience pendant quelques années de remettre des vaches, donc elle est encore ouverte.
Oui.
C'est grâce à une petite fleur qui s'appelle la drosera.
Oui.
Et le propriétaire de cette sagne avait un rêve. Au départ, il disait que ça ne valait rien, cette sagne, et puis en discutant, en lui disant que peut-être qu'on pourrait y retrouver de la drosera. Ses yeux se sont mis à pétiller.
Il a tilté tout de suite.
Il a tilté parce qu'en fait, quand il était enfant, chez sa grand-mère, il allait se promener dans les sagnes et la grand-mère l'amenait voir les droseras.
Ouais.
Donc c'était un rêve d'enfance et du coup, il a fait des pieds et des mains pour voir avec son voisin s'il ne pouvait pas y mettre des vaches pour réouvrir la sagne et la drosera est revenue.
Non mais alors c'est extraordinaire parce qu'en fait il ne faut jamais se remettre de son enfance. Quoi. Ça a été sa petite madeleine à lui, cette drosera.
C'est ça. Et en fait ce qui est intéressant dans l'histoire du réseau sagne, c'est que chacun a une histoire particulière avec sa sagne et que selon les personnes, la motivation va être différente.
Ouais.
Chez d'autres, ça va être plus la valorisation économique ou le fourrage pour les éleveurs sur les périodes sèches. Pour d'autres, ça va être la découverte d'un monde qu'ils ne connaissaient pas du tout, et puis tous les liens que le réseau va permettre de tisser avec d'autres personnes. Et ça change un peu des attitudes que l'on a pu avoir dans le domaine de la protection de la nature, de sensibilisation. On nous demande toujours d'aller sensibiliser les gens pour leur dire ce qui est bien. Alors hier, c'était dans les années 50, c'était la chimie, le développement agricole, nourrir la France. Puis aujourd'hui, le nouvel idéal, c'est la biodiversité, les papillons et les droseras. Et je trouve que c'est une attitude extrêmement violente et un peu, moi j'appelle ça la colonisation des consciences. Et nous, on n'est pas du tout dans cette posture-là. Et nous, on a travaillé, grâce à des gens un peu pionniers comme Jacques, à essayer de travailler avec les propriétaires pour qu'on puisse utiliser ces espaces, parce que c'est important pour l'agriculteur ou le forestier de pouvoir utiliser ces espaces. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que le paysan, il a son mode de représentation du monde. Le naturaliste, il en a un autre. Et il faut que chacun fasse un pas un peu dans le monde de l'autre. Et c'est en ça que les sagnes ont une force symbolique qui permet de faire vraiment une transformation.
Alors, faut le faire avec des bottes, mais pas forcément toujours droit dans ses bottes, quoi.
Exactement. Certainement pas droit dans ses bottes, sinon vous êtes sûr de vous casser la gueule. Et que si on réfléchit uniquement par rapport à un contexte économique du moment, Les milieux naturels, ils ne sont pas dans cette temporalité. Et c'est ça qu'elle apprend, la Sagne.
Oui.
C'est à ralentir parce qu'on touche à des équilibres qui touchent à des ressources naturelles essentielles, à savoir l'eau. Et donc, on ne peut pas se contenter d'être dans une réflexion à court terme. Et un des grands principes du réseau Sagne, et là-dessus où on est très heureux d'avoir
réussi,
c'est que le but, c'était de réconcilier l'intérêt particulier avec l'intérêt collectif. Et que si la Sagne, elle est chez moi et elle m'en kikine, je peux quand même faire l'effort de la soigner parce que je sais qu'au niveau du bassin versant, de mon voisin un peu plus bas, ce que je vais faire aura des conséquences.
C'est pour ça que je disais qu'elle était partageuse.
Elle est partageuse parce qu'elle lâche l'eau en été quand il en manque. Elle en donne aux ruisseaux. Donc dans les bassins versants où il y a beaucoup de sagne, les ruisseaux ne s'assèchent pas. Dans le contexte du changement climatique tel qu'il se dessine, c'est sûr que c'est un gage de résilience des territoires.
C'est un allié.
C'est une alliée de grande valeur.
Alors on est quand même sur des restes de carbone qui sont éteints là.
Alors la matière qu'on appelle la tourbe, c'est de la matière organique qui n'est pas complètement décomposée. Les plantes qui poussent sur ces espaces meurent, s'accumulent.
Parce que c'est un espace qui est acide.
Voilà, ce sont des espaces très acides où il y a de l'eau en permanence, il n'y a pas d'oxygène.
Oui.
Donc comme il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de décomposition complète.
Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de champignons non plus, etc.
Donc la matière organique s'accumule et forme ce qu'on appelle la tourbe. Mais ça met des milliers d'années. Ici, on estime que les tourbières les plus anciennes, elles ont entre 5 et 10 000 ans pour faire 1 mètre 20, 50 maximum de tourbe.
Alors qu'est-ce qui vous plaît, vous, profondément? Pourquoi vous êtes totalement attaché? Puis on va le dire, maintenant c'est devenu quand même une partie de votre vie, Céline, avec Jacques Thomas aussi. Et c'est aussi, ça fait partie de votre identité. Hein. Moi je l'ai rencontré d'ailleurs un jour comme ça, donc c'était grâce au Sagne.
Ben oui, en fait, la première fois que Jacques m'a emmené dans une Sagne, je n'aurais jamais imaginé que ces espaces-là prendraient tant de place dans nos vies.
Ouais.
Et c'est vraiment, oui, une tranche de vie, ça fait 30 ans qu'on les parcourt. Moi, je dis souvent, la Sagne nous travaille du dedans parce qu'elle nous transforme, en fait. Dans la force symbolique qu'elle porte, je pense qu'il y a une dimension profondément intime, en fait, qui se joue et qui fait que ça devient notre histoire, l'histoire des Sagnes.
Un grand merci à Céline donc pour cette balade quand même assez intense. Les chevilles ont tenu, donc doublement merci.
Merci à toi Denis et j'espère que les Sagnes auront semé leurs petites graines en toi.
Elles ont chanté grâce à vous Céline.
La langue des Sagnes, donc sur le site de CO2 Mon Amour pour vous procurer ce livre ainsi que L'eau de ma terre, donc cet ouvrage de photographie. Pour découvrir ces portraits tout à fait sensibles. Ça fait du bien, hein, Frédéric Danhé, d'entendre ça.
Ben c'est ça, l'écologie sociale. C'est au détour d'une scène qui n'intéressait personne. Et on confronte des gens qui ont, comme l'a dit Céline, qui ont des modes de représentation différents. Et du coup, ils se retrouvent à partager la même une vision commune d'un territoire pour son avenir. Ils regardent le passé, ils voient ce qui n'a pas été, ils voient ce qui devra aller. C'est un objet social, l'écologie. Il faut cesser de le dire. Et les Sagnes, c'est un incubateur de relations sociales.
Grand merci, cher Frédéric. Merci à vous,
Denis.
Merci à Fabrice Desmas, à Camille Blanès, à Henri-Marc Mutel. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end.